Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, l'émission qui n'a pas peur de faire son propre cheddar pour mettre dans son popcorn. Je suis, comme d'habitude, moi, Louis Laramé, entouré de mes deux co-animateurs, Jim Boulay.
Hello.
Et Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Donc, cette semaine, une semaine fort occupée, une semaine sous le signe Marvel, en tout cas pour moi. Mais avant d'aller plus loin, Jim, qu'as-tu fait cette semaine?
Cette semaine, j'ai vu pas mal de films. J'ai joué aux cartes Magic.
j'ai calvaire.
J'ai fait pas mal d'affaires qu'adolescent j'aurais pu faire. Surtout, je me suis posé des questions, puis j'ai décidé d'amener mes questions ici. Peut-être que vous avez une opinion là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez du film japonais Happy Hour, qui est sorti en 2015?
Non.
Bon, c'est tout à fait possible. Ça n'a pas été tellement distribué à l'international. C'est un film du réalisateur Ryusuke Hamaguchi. Et ce réalisateur-là a décidé de ramener son film au cinéma cette année. On ne l'aura pas non plus, à ma connaissance en tout cas, mais sous forme de série.
Okay.
Tu sais, on a eu par le passé des téléfilms qui sont plus ou moins des films produits pour et par la télévision. Généralement un peu plus cheap. Beaucoup de films de Stephen King ont été faits de cette façon-là. Et aujourd'hui, sommes-nous rendus, alors que Netflix et les séries télé ont la cote, à faire des ciné-séries. Parce que là, c'est ce qui va se passer. Le film va sortir découpé en trois morceaux qui vont être présentés à trois jours différents dans le mois de mai en France. Particulier comme idée, le film change de nom aussi. Il va s'appeler « Sens ». Et c'est ça, c'est une version redécoupée de son film, un film d'à peu près 5 heures, là, extrêmement long. quelle drôle d'idée. D'un autre côté, je me dis, OK, est-ce que les gens sont rendus à ça? Mais d'un autre côté, je me dis, OK, ça nous tente-tu de payer trois fois pour aller voir un film? Je sais pas. Donc, c'est ça.
C'est un très long film, en fait.
Oui, c'est un très long film, mais c'est ça, c'est peut-être qu'il aurait pu le couper d'une autre façon. Mais bon, voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais je trouvais ça étrange. Je me demande si ça va pas devenir une tendance éventuellement, parce que, bon, c'est ça. Les gens semblent aimer le concept de suite, là, de chronologie.
Si je peux t'arrêter une seconde, Jim, t'es en retard. Vraiment. Parce que, te rappelles-tu du film de 96, Fargo, qui mettait en vedette, entre autres, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare?
Oui, mais c'est sur Netflix.
Ouais, mais
c'est pas au cinéma.
Ouais, mais c'est une série télé.
Ouais.
Ils ont pris un film, ils en ont fait un remake. Puis le remake, là, l'histoire est la même, le setting est le même, les acteurs ont changé, l'histoire a un tout petit peu changé en série de 10 épisodes.
Mais c'est ça. Mais là, moi, je te parle du film. Ils ont juste refait le montage, ils l'ont divisé en 5, puis ils le ramènent au cinéma. Là. C'est pas un remake, là. C'est le même film.
Écoute, si ça pogne...
Je sais pas. Moi, je suis sceptique, là, parce qu'encore là, c'est comme payer 5 fois, 5, ben, 3 billets dans ce cas-ci, plutôt qu'un.
Mais est-ce que c'est 3 jours consécutifs, en
non,
plus?
C'est le, je pense à une semaine d'intervalle, quelque chose comme ça, chacun.
C'est un samedi, genre.
Mettons le 2, le... Ah non, c'est peut-être 2, 9 et quelque chose comme ça.
OK, c'est original. C'est...
Ben, je sais pas, je trouve ça bizarre.
Il y a des films comme ça que j'aurais pas vu en un seul setting au cinéma. Là. Genre, je pense entre autres au Seigneur des Anneaux. Si la version longue avait été diffusée au cinéma, j'aurais bien aimé qu'il soit séparé en deux puis trois. OK, Mina, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?
Ben, en fait, moi, cette semaine, j'ai fait plusieurs choses. Mais ce que je veux vous parler cette semaine, c'est d'un anniversaire très important qui s'est passé en la journée de mercredi, le 2 mai. Parce que oui, le 2 mai, en fait, c'est... en fait, cette année, c'est le 20e anniversaire de la bataille de Poudlard. Et depuis quelques années, J.K. Rowling, qui a créé l'histoire, s'excuse sur Twitter d'une mort qui s'est passée. Donc, cette année, elle s'excuse de la mort de Dobby. Voilà. Donc, on a eu la première année, elle s'est excusée de la mort de Fred Weasley, ensuite de Lupin et l'année dernière...
Et Edwidge. Personne pense à Edwidge?
Ben, pas encore rendu là, peut-être pour l'année prochaine ou l'autre d'après.
Mais aussi... Edwidge?
Non, mais il y a aussi l'aspect que, tu sais, Dobby parle, a la raison, alors que, ultimement, Edwidge est un oiseau qui pue, qui laisse ses fientes un peu partout, puis qui est juste désagréable parce que ça caquette ces oiseaux-là.
C'est quand même vrai. Et faut pas oublier le rôle important de Dobby dans Harry Potter et la Chambre des secrets. Donc, ça donne lieu à toutes sortes de choses drôles sur Twitter. Donc, voilà, le 2 mai. Et si je souligne un anniversaire à chaque année, ce sera bien celui-là.
Merci, Mélinda. Moi, cette semaine, je vous annonce que je suis casanier et que j'ai découvert le bonheur parce que, oui, auditeurs, auditrices, il y a finalement le beau temps qui est arrivé en moyenne dose, mettons. Et j'ai réussi à m'installer sur mon balcon avec mon set d'écouteurs et mon portable pour écouter des films dehors en profitant de la température. Fait que j'ai écouté un film de 2014, The Good Guys, avec Russell Crowe et Ryan Gosling dans les rôles principaux. Et un, j'ai découvert que j'aimais vraiment ce film-là. Que deux, un bon film d'action, ça se peut. Et que trois... Ah, oh, mon Dieu, que Ryan Gosling est sexy, peu importe le rôle qu'il occupe.
Vraiment, vraiment un bel homme.
Un jour, je ferai une chronique sur la vie et la carrière de Ryan Gosling, acteur canadien d'ailleurs, mais j'ai peur de le faire parce que je risque de dégoûter partout dans ma chaise.
Mon Dieu, c'est trop de détails, ça, Louis. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on pourrait dire que ta nouvelle disposition pour écouter les films dehors, c'est une version minimaliste du ciné-parc?
Oui.
Mais
oui,
c'est bien.
Oui.
Bon, d'accord.
Fait que merci beaucoup. Cette semaine, Mélina, t'as été voir le film de fermeture de Festival de cinéma du monde de Sherbrooke.
Exactement.
Jusqu'à la garde.
Oui.
Puis on m'a expliqué que c'était pas une histoire d'épée, ce qui m'a bien déçu. Parce que
jusqu'à la garde. En garde!
Ben, jusqu'à la garde, en fait, c'est la partie de l'épée qui protège tes doigts normalement. Ça garde tes doigts. fait que jusqu'à la garde, c'est quand t'enfonces ton épée dedans quelqu'un jusqu'à la garde, puis qu'il reste juste le bas. En tout cas, je...
Il y a peut-être une métaphore
peut-être
à faire
avec
le film.
Peut-être parce que c'est un peu ce que le film te fait sentir.
Ah oui, à ce point-là,
la
lame au complet, puis tout. OK.
Ça prend l'épée, ça rentre dans toi, puis ça bouge bien comme pour être sûr de laisser des traces. C'est ça. Donc, oui, jusqu'à la garde. C'est un film français réalisé par Xavier Legrand et c'est son premier long métrage. C'est quelqu'un qui vient du monde du théâtre et c'est franchement très réussi pour son premier long métrage. C'est assez court, ça dure 1h30. Et en fait, je vais vous lire le synopsis un peu. C'est très simple. C'est une banalité qu'on voit tous les jours, qui se passe tous les jours. Donc, ça va comme suit. Le couple Besson divorce pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence. Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.
Je suis content que tu sois encore avec nous puis que t'es pas juste mis à courir puis comme en direction du soleil couchant puis jamais arrêté.
Mais honnêtement, j'aurais pu. Je l'ai vu avec Jim. J'ai supplié Jim de venir voir ce film-là avec moi et heureusement qu'il était là à mes côtés. Et je vous cacherai pas qu'après le film, on a fait un petit détour par notre établissement favori pour boire un liquide dans un petit verre pour avoir un petit peu de chaud dans le ventre et être un peu réconforté après.
Et décompressé, comme on le faisait à l'époque, hein, un moment de choc traumatique.
Mélina parle ici d'une shot de chocolat chaud.
C'est ça.
Pour nos auditeurs auditrices de moins de 18 ans.
On va aller écouter la bande-annonce tout de suite. Vous allez voir, c'est dans le fond, c'est la juge qui lit la lettre que Thomas... pas la lettre, mais je veux dire la déclaration que Thomas a faite devant les juges. Donc, voilà.
Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça. C'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir, et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux, ou un week-end sur deux, parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça?
J'aimerais bien comprendre.
Donc voilà, la bande-annonce, ça met le ton.
C'est tellement intriguant comme bande-annonce, c'est ça le pire.
Mais c'est que ça commence rough, l'autre, puis je veux pas revoir mon père, puis avec le ton un peu enfantin.
Oui, et c'est les deux premières minutes du film. Il faut dire que même si on voit la bande-annonce, il y a des bandes-annonces des fois que tu as l'impression d'avoir vu le film.
On n'aimera pas Xavier Dolan.
Ça fait pas sentir bien. J'ai pas envie de vous faire trop un résumé détaillé parce que pour laisser la chance à ceux qui ne l'ont pas vu d'apprécier le film à sa juste valeur. Mais dans le fond, ce que je vous dirais, c'est que premièrement, c'est pas un film que je conseille à tout le monde. C'est pour un public très, très ciblé. Faut avoir envie de pas se sentir bien en sortant du cinéma là.
Donc c'est parfait pour Louis.
Exactement.
C'est le
mais
meilleur.
J'entends ça, puis j'étais comme oui, c'est un film pour masochistes. Ça, je vais aller voir ça probablement bientôt.
Écoute, si t'as aimé la scène de viol dans le problème d'infiltration, tu aimeras sans doute la psychologie du film. Non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire.
Il y a plein de moments inconfortables dans ce film là. Et une des grandes particularités, c'est que on n'a aucune idée c'est qui le protagoniste et c'est qui l'antagoniste.
Exactement.
Jusqu'au je sais pas.
Dernier 25 minutes, peut-être.
Peut-être du film, oui.
Donc, ouais.
Tu n'as aucune idée. Et ce film-là crée des tensions que je peux même pas vous expliquer. Mais des plans qui s'étirent et qui s'étirent. Puis là, il se passe pas grand-chose. Mais à l'intérieur de toi, là, tu te sens vraiment pas bien. Genre.
Qui a réalisé ça?
C'est Xavier Legrand. C'est son premier long métrage, c'est ça qui est très intéressant.
Okay. Il va falloir que je le suive, cet homme-là.
Si t'aimes les films, disons, le style utilisé dans un film d'horreur pour créer de la tension, pour jouer avec les c'est très bien utilisé, mais dans une histoire crédible, donc ça augmente l'effet, parce qu'évidemment, tu peux pas dire, OK, c'est totalement irréaliste, puis les monstres et les fantômes n'existent pas, là.
C'est une histoire crédible et qui se passe tous les jours. Tous les jours, il y a des couples qui divorcent et il y a des affaires de garde d'enfants qui doivent se régler, donc c'est une situation très courante de la vie, mais on se sert de ça pour faire quelque chose qui est renversant et qui est vraiment bouleversant à ce niveau-là. Et c'est vraiment un film de festival, en fait. C'est pour ça que je vous dis, ça s'adresse quand même à un public assez pointu. Et je pense que c'est le genre de film que ça continue à travailler après l'avoir vu.
Mm-hmm.
Puis même Jim a eu de la misère à dormir suite au film. Là, il
repensait
à ça.
J'ai des petits yeux aujourd'hui. Ah oui, c'est limite traumatisant.
Fait que c'est un vrai film, là. C'est pas...
Comme tu les aimes.
Est-ce que t'as une note plus masochisme sur 10?
C'est vraiment dur pour moi à dire. J'irais... c'est un très bon film, là. J'irais avec un 9. Je veux dire...
C'est un 9, mais t'as pas le goût de le revoir.
Non, c'est ça. Puis c'est le genre de film que, même s'il y a des choses qui payent pas, tu sens que c'est quand même là pour quelque chose, que c'est pas des erreurs. Tu sens que rien n'est laissé au hasard. Tout a été réfléchi dans ce film-là. Et le petit garçon, Julien, qui est joué par Thomas Gioria, est très bien dirigé pour rendre ça super crédible. Ça m'a beaucoup frappée parce que des enfants d'autour de 10-12 ans, ça peut être dur, mais là... je sais pas si ce petit gars-là va devenir un super bon acteur, mais en tout cas, il était dirigé vraiment de main de maître là, pour sortir qu'est-ce qui sortait à l'écran. Et c'est vraiment, en tout cas, si ça vous parle, allez voir ça, mais honnêtement, si ça vous parle pas, n'allez pas voir ça parce que...
Fait qu'un 9 sur 10, mais pour public averti.
Public qui apprécie les films d'horreur vont probablement apprécier ce film-là, même si c'est pas un film d'horreur, là, il y a pas d'horreur là-dedans.
C'est l'horreur de la vie quotidienne,
c'est une horreur psychologique, vraiment, là. Mais,
tu donnerais combien, toi, Jim, pour le fun?
Ben, c'est ça. Moi je lui donnerais pas 9 parce que, c'est ça, j'ai constaté là, que, de toute évidence, il y a des éléments qui avortent dans le film qui ont été clairement coupés au montage pour des raisons de rythme, et c'est très compréhensible. Le film dure à peu près 1h33. C'est le genre de film-là, normalement, va durer 2 heures. Mm-hmm. Donc, on a voulu volontairement...
en faire quelque chose de plus court, plus condensé.
Plus condensé, et probablement... Et franchement, le montage est impeccable. Seulement, le fait de faire probablement ce montage-là plus tard a fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu enlever, qui donnent un peu l'impression qu'on n'aboutit pas à certains éléments du film. Mais en même temps, ça pourrait aussi être vu comme une façon de nous tromper, nous détourner temporairement d'une direction ou de l'autre, parce que ce film-là fait ça sans arrêt.
Oui.
Il est toujours en train de nous tromper. On pense que c'est lui qui est méchant, on pense que c'est elle qui est gentille, après ça se tourne, finalement, c'est lui, c'est l'autre, c'est elle. Tu sais jamais qui est bon et qui est méchant dans ce film-là, jusqu'à la toute fin. Et à la toute fin, tout prend son sens, comme Milena disait, et tu t'en veux presque de t'être trompé.
Ouais.
Parce que l'impact d'avoir pensé l'inverse est extrêmement grave. Donc, c'est un film qui, comme tu t'aimes bien le dire, te traîne dans la boîte, cette fois-ci par les cheveux. Et c'est pas tout à fait de la boîte, c'est un mélange de gravier, de béton.
Ouais. Mais t'as pas donné de note, chérie.
C'est ça, donc je donnerais probablement 8.5.
Et, ouais. 8.5, ouais. Excellent. Merci beaucoup. Hey, j'ai été voir Avengers, les guerres de l'infini. Les pierres de l'infini.
La guerre de l'infini, c'est pas ça?
La guerre de l'infini. Jim est même venu avec moi voir le film.
Absolument.
Puis Jim connaît pas l'univers Marvel, fait que j'étais comme content d'avoir
J'ai eu droit
quelqu'un.
Au cours que t'as fait il y a 3 semaines, là.
Oui, mais t'as rien vu, ou à peu près, là, t'as vu 3 films, 4 films au total de l'univers, fait que tu connaissais pas la moitié des personnages qui étaient impliqués.
Il me manquait là-dedans. Certaines références, disons-le, mais oui.
Avengers, la guerre de l'infini, ce que c'est la culmination, c'est ça, de 19 films sur 10 ans depuis 2008 que l'univers a commencé avec Iron Man le premier. C'est la culmination de l'univers Marvel cinématique, c'est la mise ensemble de tous les héros, il y a plus de 47 personnages principaux dans ce film-là, contre le méchant le plus terrible de l'univers, Thanos. Et c'est une espèce de culmination, mais c'est aussi juste une synthèse de tout ce qui a pu arriver dans ce film-là. Rapidement, la description est ainsi. La destruction de l'univers est imminente. Le diabolique Thanos est à la recherche des pierres d'infinité qui lui permettront de régner en maître et en dieu. Quelques super-héros en possèdent une et ils sont la cible d'ennemis puissants. Des alliances se forment au fil des affrontements, permettant notamment à Thor de faire équipe avec les gardiens de la galaxie. Les Avengers auront peut-être même la chance d'être réhabilité. Où qu'ils se trouvent, que ce soit à Wakanda ou dans l'espace, le temps est compté et les défenseurs de la planète devront donner le meilleur d'eux pour survivre. On va juste se mettre dans l'ambiance très rapidement, on va aller écouter la bande-annonce.
Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça.
Rappelez-moi comment il s'appelle.
Thanos.
C'était bref, mais ça disait ce que ça va dire.
Oui.
Fait que ce qu'on entendait, c'était Gamora, joué par Zoe Saldana, qui expliquait à Iron Man, joué par Robert Downey Jr., qu'est-ce qui s'en venait, puis qui était le méchant là-dedans. Fait qu'on récupère, en fait, tous nos favoris. On a Thor, on a les Gardiens de la Galaxie, Groot est rendu adolescent, ce qui est quand même très drôle.
Ah oui, c'est vrai, Captain America n'est plus un ado.
Captain America a maintenant de la barbe
et il
est fort charmant.
Et il fait une vanne d'ailleurs, il fait une blague, il dit à Thor qu'il veut l'imiter avec sa barbe.
Mais en fait, c'est parce que il y a aussi la joke que Thor est rendu avec une nouvelle coupe de cheveux. On l'a connu dans l'univers cinématographique avec les cheveux très longs. Dans Thor Ragnarok, suite à une aventure avec un esclavagiste, il s'est ramassé avec les cheveux pas mal courts. Mais beaucoup plus à jour comme coupe de cheveux.
Oui, effectivement.
Thor qui n'a plus son marteau d'ailleurs au début du film à cause de justement des événements de Thor Ragnarok. On revoit également justement le Hulk qui est revenu. On voit également Black Widow qui est encore là. Maintenant blonde plutôt que rouquine.
Spider-Man toujours aussi gamin.
Spider-Man toujours aussi gamin dans l'univers Marvel. Il est particulièrement jeune cette fois-ci. Donc c'est ça. Je l'ai écouté, je l'ai vu, j'ai bien aimé ce film-là. Par contre, je dois admettre que ce n'est pas un film.
C'est 6 films.
C'est une série de courts-métrages pluggés un après l'autre qui sont dans un même univers, qui sont autour des mêmes événements, mais chacun de ces films-là est une combinaison de héros différents. Chacun de ces films-là combat une facette différente du méchant. On le voit avoir des émotions, on le voit être sans cœur, on le voit être capable de prévoir des plans machiavéliques d'avance, on le voit être capable de... Donc, c'est en quelque part l'idée qu'il y a 6 pierres d'infini et qu'il y a 6 aspects également à Thanos, et il y a 6 différentes versions de comment est-ce qui est méchant, mais en même temps qui est potentiellement humain. Après avoir regardé le film, j'ai pas pu m'empêcher de comparer cette histoire-là aux tragédies grecques, où est-ce qu'on voit un dieu qui est profondément humain, qui est profondément... qui a des ambitions qui sont crédibles. Je pense que c'est la première fois qu'un film de Marvel où je crois autant à la personne...
au méchant.
Ouais.
Ouais. C'est vrai que c'était quand même beaucoup plus développé que ce qu'on a l'habitude.
Oui, oui, on compare avec Ant-Man, qui était particulièrement décevant. On compare avec Iron Man 1, qui était bien, mais pas plus. On compare avec Thor Ragnarok... le monde noir, qui est vraiment de la scrap. On voit vraiment quelque chose qui est développé. Josh Brolin, qui joue Thanos, est extraordinaire dans ce rôle-là. Je pense que c'est ma performance favorite de ce film-là. Il y a eu des performances inégales de certains acteurs. Je pense que Benedict Cumberbatch aurait pu être à son meilleur. Je pense que... Captain America, Chris Owen n'était pas si fun que
non,
ça.
Il manquait vraiment de...
Sous-utilisé, manquait vraiment de l'espèce d'optimisme qu'on connaissait dans les anciens films. Manquait de cette espèce de volonté inébranlable. Le Winter Soldier était moins impressionnant que d'habitude. Mais c'était rattrapé par, justement, Robert Downey Jr. qui était extraordinaire, Peter Holland en tant que Spider-Man qui était très bon, Zoe Saldana en tant que Gamora qui était excessivement crédible malgré le maquillage et la peau verte.
Vince Diesel dans le rôle de l'arbre qui parle, totalement inintéressant, comme d'habitude. Ça, ça n'a pas changé. Heureusement, j'aime bien la conclusion de cet arbre dans le film. Je vais pas spoiler
Jim
les gens.
Est de mauvaise foi, mais... parce que au contraire, je trouve que... Mais il est pas intéressant dans ce film-là, il est sous-utilisé. Non, mais Chris Pratt est intéressant dans Star-Lord, quoique un peu enfantin.
C'est Han Solo, on s'entend, Chris Pratt, là.
Oui, ben...
C'est Han Solo, là.
Ce personnage-là, à la base, dans les comics, c'est Han Solo. Fait qu'ils ont pas eu le choix que de recréer un peu l'idée de ça. Han Solo, ici, un des personnages de l'univers de Star Wars.
On va sûrement... On va parler dans les prochaines semaines, clairement.
Fin mai, ouais. Je suis bien excité. Le mois de mai, pour moi, ça va être vraiment occupé. Là. J'ai bien hâte de voir Deadpool 2 et Solo. En fait, ce qui rend ça dommage pour moi, puis qui va faire que je vais peut-être diminuer un peu la note, c'est que j'y crois moins. Parce que, autant la scène finale est extraordinairement touchante, il y a un long moment que cinématographiquement est parfait, il y a un silence presque complet dans la salle, dans le film. Autant c'est dur d'y croire parce que on sait que c'est un film qui est dans une série, donc il va nécessairement y avoir suites.
En tout cas, ça finit mal.
Ça finit mal. Il y a un long silence, il y a énormément de stress à ce moment-là, il y a énormément de drame à ce moment-là. Mais on sait déjà que la suite est le 3 mai 2019. On sait déjà que plus tard cet été, en juillet, il y a Ant-Man and the Wasp qui s'en vient.
Spider-Man l'année prochaine.
Captain Marvel qui s'en vient également en mars prochain. Quoique Captain Marvel va se passer dans les années 90, ce qui va au moins nous donner une chance de ne pas être dans la même continuité. Mais donc, tout ça fait qu'on sait qu'il y a des suites, on sait qu'il va se passer autre chose. C'est un peu le problème que les comic books ont eu dans les années 80-90. On perd un peu le sens des enjeux. Mais quand même très bon, quand même de moment. J'ai toujours eu plus de misère avec les films Avengers depuis le premier parce que de par l'ambition de ces films-là, de par la volonté de regrouper autant de super-héros, autant d'histoires qui finissent là, autant de préparation, t'es obligé nécessairement de couper dans les bouts le fun. Puis ça peut être un film de 2h30, il y a des scènes que j'aurais voulu qu'ils soient plus longues, il y a des événements que j'aurais demandé qu'ils soient mieux expliqués, il y a des héros qui sont carrément coupés sans explication, on pense... non, je le dirais pas, mais ils sont pas dans la bande-annonce, mais il y en a certains qui sont pas non plus dans le film. À voir, vous regarderez.
Et ça a l'air qu'il y a aussi Robin de How I Met Your Mother qui fait une apparition dans la scène post-générique.
Oui.
J'avais même pas reconnu.
Qui joue Maria Hill. Donc, pour tous les fans de How I Met Your Mother, allez voir Avengers.
Mais jamais reconnu.
Maria Hill, qui est une présence dans l'univers Marvel cinématographique, c'est absolument la helper de Nick Fury. J'en révélerai pas plus.
Ah ben oui, OK.
C'est ça.
OK.
Je
comprends pas que je l'ai pas reconnu l'actrice, là, mais bon, c'est une autre histoire.
Elle est vraiment arrangée différemment, juste pour qu'on soit clair. Également, il y a aussi un caméo du crew de Arrested Development, les nouveaux pauvres, qui se ramassent dans la scène avec le collecteur.
C'est ça, la traduction française?
De Arrested Development?
Oui.
Oui, la traduction québécoise, c'est Les Nouveaux Pauvres.
Ah.
Rapidement.
D'accord.
Week-end de début, plus de 640 plus de 640 millions de dollars mondial, 258 millions de dollars juste en Amérique du Nord. Ils ont battu tous les records. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent dans le premier week-end domestique, mondial, le meilleur prévente de billets.
De tous les temps?
De tous les temps. Ils ont battu tout. Ils ont battu le meilleur week-end de Fate of the Furious. Ils ont battu tous les chiffres que tu peux imaginer. Mm-hmm. Ils ont battu le record de prévente de billets aux États-Unis qui avait été mis en place le mois dernier avec Black Panther.
Ça donne leur propre record.
Oui.
Mais c'est un film qui a dû coûter très cher aussi à produire.
Pas mal proche, 500-600 millions.
Ah ouais. Mais avec toute la belle palette d'acteurs, c'est tous des acteurs qui doivent coûter aussi assez cher.
Oui, puis il y en a là-dedans qui sont là pour 2-3 lignes, même pas. Moi, je pense à mes acteurs favoris, Idris Elba, qui fait partie de l'univers de Thor, parce que c'est Heimdall. Non.
Ah, c'est pas son frère, Idris Elba?
Non. C'est Heimdall, le dieu en charge du Bifrost, qui est également le dieu des passages et de la vision. Il occupe une part importante dans Thor Ragnarok, mais dans ce film-ci, il existe pour 3 lignes à peu près. C'est Idris Elba qui en lui-même est un acteur A-list normalement, qui vaut une fortune.
C'est
donc,
ça.
S'il est là pour 3 lignes, puis après ça, on a Benedict Cumberbatch qui en occupe pas mal plus d'espace. Tu sais, énormément de gens fort dispendieux dans cette histoire-là.
Voilà.
Ça a été dirigé par les frères Russo, qui vont revenir pour le 3 mai avec la nouvelle mouture des Avengers, qu'on ne connaît pas encore le titre.
À suivre.
Total de 8 sur 10.
Toi, Jim?
Moi aussi, ça c'est dans les 8.
Super. Ouais. Ça a dû faire tout un rap party, en tout cas, avec toute cette galette d'acteurs.
Ah, écoute, le générique, là, il doit avoir à peu près une douzaine de studios d'effets visuels qui ont travaillé sur ce film-là, dont le studio principal qui s'occupe de Star Wars, normalement. C'est ça, on s'entend
non,
que...
Non, ça devait être une fête pour rivaler beaucoup de fêtes. Il y a la scène, toutes les scènes de fin, dans le fond, autour de Wakanda, tout le monde est là.
Merci,
donc,
Louis
ce serait
Jim.
Ça.
Merci. Merci de votre dévouement.
Jim, t'as été voir un film du petit Jésus.
Plutôt de la Sainte Vierge. Oui, Louis, en fait, j'ai été voir le film L'Apparition et c'est certainement pas une comédie, mais c'est quand même un film français. Le film est réalisé et co-écrit par Xavier Giannoli. Ça fait deux Xavier dans la même journée. Film qui met en vedette Vincent Lindon et Galatea Bellugi. Et je note en passant un monsieur Claude Lévesque qui joue un religieux, donc je trouvais son nom prédisposé, même si c'est un rôle secondaire. Voici la bande-annonce.
Vous étiez déjà venu au Vatican?
Non, jamais, c'est la première fois.
Savez-vous ce qu'est une enquête canonique? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition.
Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition?
Une apparition de la Vierge Marie. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très, très protégée.
Nous n'avons rien à cacher.
C'est une illuminée, un point, c'est tout.
Donc, le film L'Apparition. Le film dure 2h20 et est divisé en 6 chapitres. Et bon, comme vous l'avez entendu, l'histoire est particulière. Vincent Lindon joue le rôle de Jacques, un journaliste de terrain, ou plutôt journaliste de guerre, là, c'est deux façons de le dénommer, qui revient de la Syrie juste après que son ami et collègue photographe ait été tué dans une explosion. Alors que sa vie est brisée et qu'il vit difficilement les derniers événements, il reçoit un appel du Vatican. Un évêque désire le rencontrer pour discuter d'un travail bien spécial. Il devra enquêter sur une jeune femme dans le sud-est de la France qui dit avoir vu une apparition de la Vierge Marie et dont le village tout entier est rendu une machine touristique où les pèlerins viennent prier. Donc, c'est un film avec pas mal d'action, malgré ce qu'on pourrait penser là, en lisant l'histoire ou en entendant la bande-annonce. Faut comprendre que Jacques, le personnage de Jacques, est athée, très pragmatique. Il fait partie d'un comité qui est monté par l'Église pour enquêter sur cette chose-là, puis Jacques devient complètement obsédé par cette enquête-là, malgré que c'est pas un croyant. Il va découvrir des choses qu'il n'avait pas prévues. Son enquête va le pousser chercher dans les profondeurs des choses un peu particulières. Je ne veux pas révéler de rien qui pourrait, disons, nuire à l'appréciation du film, mais le film réussit plutôt bien à nous faire douter tout au long du film, peut-être pas de l'existence de la Vierge Marie ou pas, mais plutôt de qui dit vrai dans ce film-là. On se pose vraiment des questions. Le regard de Bellucci, qui joue Anna, est pur et profond. Mm-hmm. Ses yeux sont...
Oui, moi,
on le voit dans la bande-annonce.
Dans la bande-annonce, oui. C'est fascinant.
C'est fascinant, puis on joue beaucoup là-dessus, on en parle dans le film. C'est profond, c'est en tout cas, c'est particulier. Et on l'imagine vraiment pas mentir, cette fille-là. Fait que ça vient vraiment déranger. Je pense que pas n'importe quelle actrice aurait pu jouer ce rôle-là de cette façon-là. On est toujours dans le doute dans le film. Les acteurs sont vraiment très bons. J'ai rien à dire, à part peut-être une exception. L'espèce de producteur qui diffuse sur Internet là, pour que des églises de différents pays puissent accéder au contenu. Et on dirait que cet acteur-là joue un petit peu mal, à mon avis. Mais sinon, en gros, c'est très bien.
Puis ça se passe dans notre époque. Là,
où... Ah oui, ça se passe maintenant. Okay. Ben, en fait, ça se passe plus précisément, je pense. Oui, maintenant. Parce qu'il y a des références à des apparitions qui se sont passées auparavant. Donc, on parle de 2015-2016. Donc, faut que ça soit 2018, définitivement. Par contre, peut-être un élément problématique du film, la fin nous laisse un petit peu sur notre faim, justement. J'aurais aimé peut-être un peu plus, j'aurais mis plus d'énergie à certains endroits et moins à des endroits, plus à d'autres. Un poil long, 2 heures, on s'entend que c'est pas mal mon maximum pour un film de ce type-là, alors 2h20. C'est un peu fastidieux par moment.
C'était 2h20, le film.
Ouais, c'est un bon 2h20. Heureusement, il n'y a pas de... Des fois, ils nous font ça, là, ils nous mettent des courts-métrages avant, là. Heureusement, là, il n'y en avait pas. Ça aurait été trop, mais c'est ça. C'est pas... Écoute, je peux presque rien dire sur ce film-là parce que c'est ça. Tout est dans le ressenti, dans l'énergie. Tout est dans tout, comme disait l'autre. Alors, c'est quand même un excellent film. Je donne un 8 sur 10 à ce film-là. Et c'est en salle, donc vous pouvez aller voir ça. C'est franchement plus accessible que le film de Mélina.
Drôlement plus accessible.
Si vous voulez voir un film français qui n'est pas une comédie, mais qui n'est pas trop léger.
Est-ce que ça s'adresse quand même à un public assez large ou faut avoir une certaine connaissance?
Sensibilité, peut-être.
Ben, c'est certain que ce film-là n'est pas un film religieux au sens où il n'est pas comme le film sur le pape qui s'en vient, je pense, en 2018, film sur le pape François, dont le slogan est...
Pape News?
Non, c'est comme plus... En tout cas, on sent que ce film-là est commandité, là. Mais non, dans ce cas-ci, on joue un peu avec ça. On joue vraiment à nous faire douter de certaines choses. C'est quoi, dans le fond, la croyance? C'est quoi la confiance? C'est quoi... Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On joue plus avec ça. Donc, c'est assez accessible. Je pense que des gens religieux vont pas se sentir... vont probablement trouver des moments assez difficiles, mais vont apprécier. Et moi, j'ai beaucoup apprécié tout le côté Vatican de la chose. Le côté... Je pense que dans ce film-là, on embellit un peu le Vatican. Parce qu'on n'est pas habitué. On était dans les films comme...
Da Vinci Code
ou ces films-là, on voit un peu le côté croche qui se passe au Vatican, l'espèce de... Mais dans ce film-là, c'est un peu l'inverse. On sent qu'il y a une volonté d'intégrité. On le voit plus comme une recherche. On dit à un moment donné dans la bande-annonce, je pense qu'on n'a pas mis ce bout-là, mais on dit l'Église va préférer passer à côté d'événements véridiques plutôt que d'accepter un canular.
Mm-hmm.
Donc, il y a quand même une volonté de quête de vérité qui prend le dessus. Et ça, je trouve que ça devient intéressant, malgré que les croyants s'affrontent et tout ça. Donc, un assez bon film, un 8 sur 10.
Excellent. Merci beaucoup, Jim. Pas trop Vatican à regarder comme film.
Wow!
Très drôle.
Merci, Jim.
De rien.
Là, auditeur, auditrice, confident, confidente, ami.
Compagnon à quatre pattes, compagnon à deux pattes. Chat, poisson, chien, iguane.
Et écureuil.
Du Chili.
La semaine passée, je vous ai fait une critique assez cinglante de ces films d'action qui sont pas écoutables parce que nous prennent pour des idiots.
T'as chialé, en tout cas.
Je préfère une critique vive et cinglante. D'un ton acerbe et acide, j'ai déterminé que c'était de la grosse crap. C'est à peu près ça mon estimation de la chose. Fait que je me suis... Et puis là, j'ai vraiment, tu sais, j'avais passé beaucoup de temps à faire des recherches, j'avais passé beaucoup de temps à aller revoir des extraits de ces films-là qui m'avaient autant déçu. J'avais été réécouter des bandes-annonces, de revoir des descriptions de choses qui étaient vraiment tannantes, de voir le pire qu'un film d'action peut faire. J'en avais même parlé durant la critique comme étant un des exemples que moi je trouve extraordinaire. Je me suis payé un plaisir coupable. Mon péché mignon cinématographique, j'ai été réécouter John Wick.
Ah, je pensais que t'allais dire Rapide et dangereux.
Vraiment moins. Fait que, pour vous montrer qu'est-ce que c'est un bon film d'action, je vais vous faire une critique, tout en verve et en couleur, de l'original John Wick de 2014.
D'accord.
C'est un film qui met en vedette Keanu Reeves, Michael Nyquist, Alfie Allen et un autre de mes acteurs favoris, Willem Dafoe. John Wick est un ancien tueur en série. Il a quitté le milieu criminel après avoir rencontré sa femme. Les deux tourtereaux ont vécu une vie heureuse ensemble jusqu'à ce que cette dernière décède des suites d'une maladie. Au lendemain des funérailles de sa dulcinée, un petit voyou pénètre dans sa maison, vole sa voiture et tue son chien.
C'est donc bien dramatique ton affaire.
Wick décide alors de sortir de sa retraite et de se lancer aux trousses du coupable. Mais la crapule en question s'avère être le fils du plus puissant criminel de New York, celui même qui lui a accordé sa liberté quelques années plus tôt. On va aller écouter la bande-annonce, vous allez comprendre un peu mieux le setup.
Je me lève. Plus la balade.
Belle bagnole.
Merci.
Combien?
Elle est pas à vendre. Daisy. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme.
Où t'as eu cette caisse? Qu'est-ce que ça peut foutre?
C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait.
Ce minable.
Et John Wick.
Ce minable.
Ça, c'est avec la scène où Keanu Reeves est sur la chaise attachée.
Non.
Non?
Cette scène-là, c'est quand John Wick, quand Keanu Reeves est dans son sous-sol en pyjama en train d'ouvrir son plancher à coups de masse. Ce minable, ch'tac, avec le coup de masse. Visuellement, ça parle quand même beaucoup.
Quand est-ce qu'on utilise ça, le mot minable, dans la vie quotidienne au Québec? Question de même.
Il n'y a pas de bonne raison. Là. J'ai pas vérifié si c'était la traduction québécoise ou française. Bref, ok, ça c'est John Wick, vous venez d'entendre un peu le setup, là, comment ça se place. L'histoire est super simple, il n'y a vraiment pas de fla-fla à ça. John Wick, c'est un tueur en série, il a pris sa retraite, il a trouvé sa femme, il l'a mariée, ils ont vécu plusieurs années, c'est pas spécifié combien, mais autour de 5-6. Elle tombe, probablement le cancer, tombe malade, meurt. Lui continue sa retraite parce qu'il ne veut plus participer à ce milieu-là, parce qu'il est sorti de ça. Sa femme, dans ses derniers moments, lui a fait envoyer un chien après son décès. Oh. C'est très cute. C'est un tout petit beagle qui est vraiment charmant. Puis le premier jour où il sort avec, dans le fond, il a dans sa voiture une Mustang 69 de basse. Puis il y a un groupe de criminels russes. Dans la version anglaise, l'accent russe est vraiment plus prononcé de tout le monde, dont le voyou en question, qui est le fils du patron de la mafia, fait comme « Hey, je veux te l'acheter, c'est vraiment un beau char. Ouais, c'est pas à vendre, tout un prix, bitch. » Puis il répond en russe de comme sacrer son camp puis de le laisser tranquille. Fait que le soir même, il revient chez eux, tue son chien, part avec la voiture. Mais là, C'est juste ça, là. C'est tout simplement ça. Fait que là,
histoire de vengeance, évidemment.
Histoire de vengeance. Voilà. Il a tué son chien. C'est aussi simple que ça. À la limite, la voiture, même, John Wick change de voiture après ça. La voiture est complètement détruite dans un accident. C'est pas grave. C'est le fait qu'il y a... Puis il se fait avertir par tout le monde. Retourne pas dans ce monde-là. Tu vas être obligé d'y aller au complet. Tu vas devoir commencer au complet. C'est un univers super intéressant parce que dans les trucs qui sortent de son espèce de cache secrète où il avait gardé ça en dessous du ciment de son sous-sol, il y a ses armes, son veston, sa veste par balle, mais il y a aussi plusieurs rangées de pièces d'or vraiment ornementées, frappées d'une manière très particulière, qui sont une espèce de monnaie qui permettent de tout acheter dans cet univers interlope de violence et de meurtriers. Il achète, entre autres, un service de clean de ramassage de corps et de pour cleaner sa maison. Il achète un policier corrompu. Il achète des soirées dans un hôtel haut de gamme où tout est dédié à ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y a un médecin sur place 24/7, il y a un armurier sur place, il y a des règles comme de quoi qu'aucune violence ne peut être commise dans l'enceinte de l'hôtel, le Continental. Mais tout ça est fait de manière super organique, où est-ce qu'on voit les pièces d'or, on comprend pas trop, puis dès qu'il y a de la merde, ben, il paye les gens qui viennent ramasser les corps avec ça. Puis quand il arrive à l'hôtel... Parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas là, ils font, vous rappelez de la règle, au Continental, il n'y a pas de... No business is conducted at the Continental. Il n'y a pas de business qui se deal là, justement dans le sens de il n'y a pas de meurtre. William Dafoe joue ici Marcus, son espèce de mentor qui est engagé par le chef de la mafia russe pour peut-être... En tout cas, c'est compliqué. Ce film-là a réinventé comment est-ce qu'on tournait plusieurs des scènes d'action dans les films contemporains. On voit son inspiration dans Atomic Blonde. D'ailleurs, c'est les deux directeurs qui ont dirigé John Wick. Il y en a un des deux qui n'a rien fait d'autre que John Wick 2. L'autre a fait Atomic Blonde et ça va faire Deadpool 2 qu'on va voir bientôt, David Leitch. Donc ça risque d'être très intéressant, très dynamique comme style d'action. C'est un style d'action qui nécessite des longs plans de caméra, qui nécessite un travail d'acteur très physique. On a beau s'assiner sur la carrière d'acteur de Keanu Reeves comme de quoi qu'au niveau acting en tant que tel, il est pas vergeux.
Mais il fait des cascades.
En termes d'acteur d'action, c'est probablement un des meilleurs de notre génération en termes de faire savoir ses émotions au travers son jeu physique. On l'a vu s'entraîner de manière vraiment excessive dans le Gauntlet. Il est rendu un adepte de ce qu'on appelle le Three Guns, qui est des compétitions avec le pistolet, l'arme à pompe et la mitraillette. On le voit utiliser ces compétences-là dans le film. On le voit vraiment. C'est une danse, une chorégraphie de mort et de sang. Bref, pour un film qui avait pas beaucoup d'ambition, parce qu'il y a un tout petit budget, beaucoup des méchants ont des balaclavas. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de méchants ont des balaclavas dans les films habituellement?
Parce que c'est sucré, c'est bon.
Non, pas baclava. Ah. Balaclava, qui est la cagoule complète. C'est parce que comme ça, tu peux engager moins de cascadeurs.
Ah, mais c'est
tu peux les réutiliser plus souvent.
Ouais, c'est classique. On voit souvent Tom Cruise avec une casquette dans Mission Impossible, d'ailleurs.
Ça, c'est juste parce que ça fait mieux paraître ses cheveux.
Et ses dents aussi.
Bon, et sa course si gambadeuse. Ouais,
voilà.
Mais bref, pour un film qui avait un tout petit budget, deux directeurs dont c'était le premier projet de long métrage, oui, c'était des acteurs de haute qualité, mais il n'y avait rien qui garantissait la pérennité du projet. On l'a vu d'ailleurs avec Un tueur dans la ville, Death Wish, que tu dois avoir Bruce Willis, si tu le diriges tout croche, ça marche pas bien. Donc... John Wick, pour moi, c'est ce que ça devrait être un bon film d'action. Sans nécessairement réinventer à chaque fois le style de comment on enregistre, au moins de le faire suffisamment bien pour qu'on y croit. Au moins d'instaurer des pratiques qui font que c'est intéressant à regarder, qui font que malgré une histoire qui est un peu banale, ce n'est qu'une histoire de vengeance finalement pour un chien, on y croit tout le long, les personnages sont vraiment bien développés, que ce soit au travers les accents, les petits gestes, les moments. Il y a entre autres l'avocat du chef de la mafia russe qui est tout le temps comme « Hey, je peux-tu m'en aller » ou comme en anglais, s'il vous plaît. Puis on comprend au travers ces quelques lignes, là, le type a peut-être 6-7 lignes que tout le personnage, du fait que c'est un pleutre, du fait qu'il a peur de tout, du fait qu'il veut pas vraiment être impliqué dans le côté violent de la business, qu'il est juste là pour gérer les chiffres. Mais super organique, super bien fait. C'est un 9.8 sur 10 de ma part pour John Wick. Parce que c'était probablement un des meilleurs films que j'ai vu depuis vraiment longtemps. C'est pour ça que c'est mon péché mignon. Je le réécoute à l'occasion.
Eh bien, est-ce qu'il est sur Netflix, sais-tu? Oui.
Je te confirme qu'il est sur Netflix, c'est là que je l'ai regardé. J'ai pas regardé.
OK. Ben, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Mais merci beaucoup, Louis.
Un plaisir.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec...
Cette semaine, une grosse semaine de cinéma dramatique. Ou en tout cas, ça a l'air trash. On a entre autres Effraction, qui est un suspense américain. La version originale, c'est Breaking In, réalisé par James McTeague, mettant en vedette Gabriel Union, Billy Burke et Richard Cabral. Une femme se bat pour protéger ceux qu'elle aime lors d'une invasion de sa maison. Ça a l'air vraiment... ça a l'air rough. Juste pour voir la bande-annonce, là, j'avais pas beaucoup de plaisir dans mon cœur. On a également Knock, qui est une comédie française, coproduction belge, réalisée par Lauren Levy, mettant en vedette Omar Sy, Alex Lutz, Anna Girardeau. Knock, un ex-filou repenti, devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues. Les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé pour le faire chanter.
J'ai l'impression qu'il est en terrain connu, mais en même temps, ça peut être bon.
Ouais, bon. Mais j'ai beaucoup d'amour pour les comédies belges habituellement. Fait que je pense entre autres à la comédie noire Kill Me Please, qui était particulièrement drôle. Et cynique.
Troublante en même temps.
Ouais, c'était beaucoup d'affaires, ce film-là. On a également un documentaire québécois, La Maison des Syriens, réalisé par Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier. Ce film met en lumière le processus d'ouverture et le questionnement de la communauté rurale de Saint-Ubalde, qui décide humblement et de manière tout à fait spontanée d'accueillir une famille de réfugiés syriens dans son village. Les motivations des citoyens sont sincères et touchantes, parfois empreintes de maladresse tant ils veulent bien faire les choses. Parfois, d'autres individus sont plus réticents et passent de commentaires. Tu seras bientôt fin prêt pour l'arrivée de la famille, mais elle se fait attendre. Les délais sont plus longs que prévu, le temps passe. Obligeant chacun à attendre à sa manière, les états d'âme se font sentir. Quel sera le dénouement de cette aventure humaine? La famille syrienne arrivera-t-elle? Si oui, quand?
Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être très intéressant. C'est comme l'autre version, parce qu'on a toujours les réfugiés,
ouais.
On a toujours la difficulté là-bas en Syrie, et là, de voir comme le côté... accueil, probablement qu'il y a des trucs municipaux là-dedans, il doit y avoir des gens qui sont pas d'accord.
Pour avoir vu un peu la bande-annonce, lu un peu sur le projet, ça a l'air de la grande séduction version.
Ouais, c'est ça que ça faisait penser. Ouais, intéressant.
Cette balle, ça a pas l'air gros.
Ça sonne pas gros, en tout cas.
Non.
Je sais pas pourquoi.
Là, le prochain, je comprends pas l'histoire du titre. Parce que le titre au Québec, c'est Le Redoutable. Le titre en France, c'est Godard, mon amour.
Ah,
en référence à Jean-Luc Godard. Peut-être.
Pas mal directement. Ah. Tu vas comprendre dans un
instant. Oui, ok.
C'est bon, un drame biographique, coproduction france-italienne. Mettons en vedette Louis Garrel, Stacy Martin et Bérénice Bejo, réalisé par Michel Hazanavicius. Paris, 67. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiesemski, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément, passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système, aussi incompris qu'incompréhensible. Donc directement Jean-Luc Godard, sa biographie même.
Voilà, ça m'intéresse.
C'est considéré comme un drame biographique dans les classements de ces choses-là. Un autre film, La Reine de la Fête, complètement ailleurs en termes de thème ou de gestion des choses. Là. La Reine de la Fête, version originale de Life of the Party, mettant en vedette l'extraordinaire Melissa McCarthy, Julie Bowen, Debbie Ryan, Jillian Jacobs et Maya Rudolph. Quand son mari la quitte, Diana, Melissa McCarthy, décide de reprendre sa vie en main. Elle retourne à l'université et se retrouve dans la même classe que sa fille. Entre les soirées et la vie de campus, Diana va retrouver sa liberté et profiter de cette année.
Un autre film que j'irai pas voir.
Ouais, ben j'ai vu la bande-annonce, puis il y a des jokes de partie génitale, mais je trouve ça très très drôle. Puis j'aime vraiment beaucoup Melissa McCarthy, fait que c'est à considérer.
Eh bien.
Par contre, il y a aussi Revanche, un suspense français réalisé par Coralie Fargent, mettant en vedette Mathilda Anna Ingrid Lutz. OK. Kevin Jensen, Vincent Colombe et Guillaume Bouchède. Quand un millionnaire amène sa maîtresse sexy à son voyage de chasse annuel avec ses copains, les choses deviennent incontrôlables et bientôt, les hommes deviennent les proies.
Ah.
Ce serait la fin de cette émission de Cinébrunch. J'espère que vous avez eu du plaisir, moi j'en ai eu. Je vais donc vous souhaiter une extraordinaire semaine avec mes collègues Jim.
Oui, bonne semaine.
Et Mélina.
Bonjour.
Et au plaisir de se revoir la semaine prochaine.